Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, auditeur de Radio Silence. Ma chronique d'aujourd'hui, numéro 9, a pour titre L'illusion et la réalité. Je relève dans l'actualité économique, plus précisément de l'économie monétaire, dans la lettre de diffusion quotidienne des manants du roi orléaniste de ce dimanche 28 juin 2009, que Dimitri Medvedev, président de la République de Russie, Fédération de Russie, ferait miroiter aux Russes la perspective présentée comme ravissante de voir le rouble devenir monnaie de réserve mondiale. Bien sûr, ils ont l'air d'approuver ce propos illustré par un billet côté des livres sterling, des dollars US et des euros. Cela révèle pourtant une multitude de problèmes sociaux. Tout d'abord, les problèmes socio-économiques. Les Russes sont-ils prêts à admettre un endettement massif de leur pays dans les années à venir? Sont-ils prêts à s'enfoncer dans la monnaie crédit avec le mauvais exemple de l'Occident sous les yeux? Comprennent-ils que la monnaie émise et non présentée au paiement immédiatement est une dette sur les générations futures et qu'une monnaie acceptée en réserve par les autres pays s'apparente à une drogue dure avec la mort garantie à brève échéance? Faut-il leur rappeler que Margaret Thatcher a mis 11 ans à sortir la livre sterling de l'ornière? Ensuite, les problèmes techniques. Voici les masses monétaires actuellement recensées. L'euro, le dollar américain, le yen japonais et le yuan chinois représentent pratiquement à eux seuls, à ces quatre monnaies, 75% des signes monétaires en circulation dans le monde. L'Union européenne, avec l'équivalent de 1 035 milliards de dollars US, à 24,30% des liquidités en circulation. Les États-Unis, avec 850 milliards de dollars, 19 et quelques pourcents. Le Japon, avec 762 milliards de dollars, presque 18%. Et la Chine, avec 492 milliards de dollars, 11,56%. Le Royaume-Uni atteint presque les 4%. L'Inde, un peu plus de 3%. La Russie, seulement 2,60%. Comment espérer, dans l'état actuel de la circulation du rouble, qu'il puisse occuper une place importante dans les échanges mondiaux avec seulement 2,60% de la masse totale des 89 signes monétaires du monde actuel? Le seul moyen technique serait d'augmenter donc dans de fortes proportions la quantité de roubles émis par la Banque nationale russe, au moins de 10 fois. Donc une inflation monétaire de 900%. Est-ce crédible sans dévaluer le rouble et compromettre sa convertibilité? Pour finir, les problèmes géopolitiques. Si le rouble augmente en quantité disponible dans de fortes proportions, cela ne pourra donc se faire sans heurte et sans trop de dévaluation qu'avec des contreparties. Par exemple, l'euro devra accepter des roubles en réserve dans ses contreparties et donc les gouvernements de la zone euro devront renoncer à être payés de leurs exportations pour une partie. L'Europe en a-t-elle les moyens? Si elle y consent, cela redonnera les cartes mondiales au profit de la Russie et au prix d'un retour à l'isolationnisme, même partiel, des USA, de manière à rééquilibrer les zones roubles, dollars US et euro. Mais la Chine veut aussi sa part et exige de participer à ce rééquilibrage. Donc il y a gros à parier que personne ne paiera plus rien et que tout s'obtiendra dans la fuite en avant avec une inflation débridée, tout au plus calculée, pour aboutir à 25% pour chacune des quatre monnaies. Que va devenir le yen, paravent traditionnel depuis 60 ans du dollar US? Que vont faire les royaumes musulmans assis sur le pétrole? Le problème monétaire est un conflit mondial, larvé, qui pourrait bien aboutir à un conflit tout court. Car les fous qui veulent gouverner le monde vendent en ce moment très cher les places des rares monnaies qui subsisteront dans 50 ans. Il y en avait plus de 250 il y a un siècle, il n'y en a plus que 89. Combien en restera-t-il dans 50 ans? À mon avis, 5 à 7, pas plus. Mon conseil patrimonial du jour sera bref. Souvenez-vous de 1979. Une loi fut votée alors qui interdisait aux banques toute publicité pour les fonds de commun de placement. Beaucoup plus risqués en général que les SICAV, ils revêtent souvent l'apparence d'une sécurité trompeuse car souvent investis sur peu de valeurs, elles-mêmes risquées. On vient de le voir d'ailleurs partiellement avec l'affaire Madoff, lequel n'est que le bouc émissaire du système. Préférez les SICAV diversifiés, obéissant à des règles de prudence obligatoires, comme la fameuse règle de 30% de liquidité au moins, et préférez encore dans ces OPCVM les SICAV diversifiés en valeurs étrangères, au-delà des PEA et autres enveloppes fiscales. Nous allons enchaîner maintenant avec le chapitre 9 de mon histoire de la monnaie. Comme prévu, nous allons regarder quel est le rapport de l'or et de l'argent sur Terre et dans l'économie. Nous avons vu qu'il était très difficile car compliqué et long, et d'un coût supérieur au droit de monnayage du roi, 8,5%, de se procurer les quantités de marques d'argent métal pures pour nécessaires à la mise à la disposition de l'économie générale des millions de pièces requises par les échanges. La nécessité de mettre toujours plus de pouvoir d'achat monétaire à la disposition des agents économiques a forcément conduit depuis toujours à faire circuler une deuxième monnaie au pouvoir d'achat supérieur à la première, plus usitée celle. Cette deuxième monnaie était la monnaie d'or, traditionnellement. Cependant, cette deuxième circulation métallique posait des problèmes physiques, monétaires, économiques, politiques et sociaux. Tout d'abord, il s'est toujours posé le problème du rapport physique des quantités d'or et d'argent disponibles sur Terre. De manière plus abordable, ne fût-ce qu'en Europe, ou au moins de manière plus étroite, si tant est qu'on puisse l'isoler sur le territoire français. La réponse donnée dans les années 60 était un rapport de 1 à 20, 20 fois plus d'argent que d'or. En ce début du 21e siècle, la réponse donnée par le docteur Chaise en 2004 est la suivante, dans 4 ratios. Ratio production annuelle 7,84. Ratio réserve en sous-sol, non exploité, 5,45. Ratio production depuis un siècle, de 1900 à 2003, 7,64. Ratio des coûts de production de l'un par rapport à l'autre, 60. Les cours actuels d'hier sont pour une once de chaque métal pur, 936 $ et 14,67 $. Soit un rapport coté de 1 à 64, donc très proche du rapport des coûts de production de chacun. Ce qui ne tient pas compte cependant du rapport des disponibilités sur Terre. Ce rapport va de 5 à 8 et chiffre donc une disponibilité de l'or plus proche de celle de l'argent, et non pas si éloignée que la cotation l'indique. Donc, l'argent métal va voir son cours se redresser autour d'un rapport d'une moyenne de 1 à 33 environ. L'égalité de cours entre les deux métaux est prévisible car tous les excès sont possibles sur un marché livré à l'anarchie. Sous Philippe IV le Bel, la réponse donnée au XIIIe siècle, il y a donc 7 siècles de ça, fut un rapport de 1 à 25, ce qui n'était vraiment pas mal vu du tout avec les moyens de l'époque, car il fallait trouver une moyenne entre les coûts de production et la richesse connue en sous-sol, en Europe seulement, et vaguement estimée aux Indes. Nous retrouvons là l'un des piliers des lois fondamentales du royaume, respecter d'aussi près que possible la loi naturelle, hors de laquelle il n'y a évidemment point de salut. Le problème monétaire fut donc résolu par le roi qui autorisa la création d'une pièce d'or pure, l'or royal, pesant 3,5 grammes, frappée à raison de 70 le marc de 245 grammes, lui-même alors égal à une livre tournois, laquelle valait 1,25 livres parisis. Il dévalue d'abord la livre tournois au poids de 84,31 g d'argent pur, divisé en 20 gros deniers de Saint-Louis de 4,21 g chacun, comme depuis son grand-père. Les sous-multiples destinés aux usages communs furent les petits deniers, à raison de 12 pour un gros. Ces petits deniers ne comportaient donc plus que 0,35 g d'argent. Il est évident que des pièces utilisables dans des échanges pèsent forcément bien plus. Donc, ces petits deniers comportaient beaucoup de monnaie noire. Le petit peuple ne fut pas content et la monnaie se mit à connaître divers avatars. En 1295, le petit denier est dévalué à 0,28 g par division en 15 pièces pour un gros au lieu de 12 précédemment, soit 25% de dévaluation. Il fallait alors rassembler 300 petits deniers pour avoir une seule livre tournois. La livre parisis fut alors réévaluée à une livre tournois, à la parité. Ce poids de 84,31 g d'argent pur devint le poids caractéristique de la livre tournois devenue presque nationale. Il faut aussi rassembler 20 sous d'or, soit 10 pièces de 2 royales chacune, donc de 7 grammes d'or pur pour avoir une livre tournois, ce qui nous rapproche des souverains de 7,32 grammes ou mieux de la pièce de 20 Reichsmark de 7,17 de nos jours. Le rapport est donc de 7 grammes pour 0,28, soit de 1 à 25 entre l'or et l'argent. L'or est donc légèrement surévalué sur l'argent sur la règle des années 60, mais pouvait-on le savoir avec les moyens de l'époque ? En tout cas, d'une part, le rapport est bien placé sur la moyenne actuellement évaluée. D'autre part, il est évident que le petit denier des échanges courants a été dévalué de moins 91,67% quand même. Bien que ni la livre tournois ni le gros n'aient changé depuis Saint-Louis IX, le peuple français, évidemment désinformé des difficultés monétaires, donna une réputation de faux monnayeur à Philippe le Bel et se mit en colère. Comme il exigeait des comptes, le roi dut, plus tard, sacrifier Enguerrand de Marigny, pourtant intègre. Le problème monétaire ayant créé un problème social, il n'en faut pas plus pour créer un problème politique mettant en cause la survie du régime. En 1314, le roi meurt, incompris, après avoir sécurisé le royaume, l'avoir équipé, assaini, sans avoir jamais failli sur le plan monétaire avec la monnaie de Saint-Louis. Mais la dévaluation du petit denier lui aliéna le peuple qui s'en remit à ses successeurs. Nous approfondirons donc cette réputation de roi faux monnayeur dans notre prochain chapitre 10. Voilà pour aujourd'hui. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur, auditeur de Radio Silence.